Amis auditeurs, bienvenue dans cette nouvelle émission Témoignages chrétiens, Marie avec vous. Aujourd'hui, je vous propose la vie de Sainte Marie de Jésus crucifié, Mariam Bawardi, carmélite. Le 17 mai 2015, le pape François a canonisé plusieurs aînés dans la foi, dont Sainte Marie de Jésus crucifié, Mariam Bawardi, carmélite, fondatrice du Carmel de Bethléem et de Nazareth. Un heureux événement, un signe d'espérance, un encouragement à la fidélité pour les chrétiens et toutes les personnes de bonne volonté du Proche et Moyen-Orient en ces temps difficiles et tourmentés, dit le pape François. Cette figure de sainteté apporte un message complémentaire fondé sur la prière et la charité dans l'offrande de soi et le service. Cette fille du Carmel est donnée en exemple comme sœur aînée dans le Christ et soutien particulier des chrétiens d'Orient. Sa canonisation est l'occasion de faire connaître et de diffuser largement les fruits de sainteté de l'Église en Orient. Ils sont un don pour toute l'Église et interpellent toutes les traditions. En effet, Mariam est un pont entre les deux poumons de l'Église, l'Orient et l'Occident. Elle rejoint les uns et les autres en les reliant à leurs racines et les invitant à la communion. Pour s'enraciner dans le Christ et garder le cap de l'espérance, l'un et l'autre ont besoin de ces liens de fraternité et de communion, de témoignage, de fidélité et de sainteté. La vie de Mariam manifeste la pertinence de ce lien. Aujourd'hui, plus que jamais, le poids des menaces nous invite à faire de l'amour et de la fraternité la loi fondamentale des rapports sociaux et internationaux dans un esprit de réconciliation et de pardon, en nous inspirant du style de vie de la bienheureuse Marie de Jésus crucifié et de son exemple non seulement pour son peuple, mais aussi pour le monde entier. Puisse ce nouveau style de vie nous donner une paix fondée, non sur la terreur, mais sur une confiance réciproque. C'était une phrase de Saint Jean-Paul II lors de sa béatification. Voici brièvement l'histoire de sa vie. Mariam Bawardi est née le 5 janvier 1846 à Abeline, petit village de Haute-Galilée, situé à une vingtaine de kilomètres de Nazareth. La beauté des paysages et la sagesse de cette terre resteront toujours gravées dans son cœur. Les parents de Mariam sont issus de familles originaires du Liban et de Damas. Ils sont chrétiens de rite oriental et forment un foyer pauvre et fervent. Ils ont eu successivement 12 garçons qui, tous sont morts en bas âge. Dans la foi, sa mère a alors eu l'inspiration de faire le pèlerinage à Bethléem pour solliciter une fille de la Vierge Marie. Là, dans la grotte de la Nativité, elle et son mari ont promis de donner à l'enfant le nom de Marie. 29 ans plus tard, Mariam viendra en ces lieux fonder le Carmel de Bethléem. Très tôt, le Seigneur marque de son sceau le cœur de Mariam. Un jour, elle veut laver deux petits oiseaux qui en meurent. Profondément désolée, elle entend cette parole intérieure. « C'est ainsi que tout passe. Si tu veux me donner ton cœur, je te resterai toujours. » 2 ans après la naissance de Mariam, voici celle d'un petit frère, Boulos, Paul, qui vient réjouir la famille. Mais elle a tout juste 3 ans quand soudain son père et sa mère meurent à quelques jours d'intervalle. Selon l'usage oriental, Boulos est alors recueilli par sa tante, tandis que Mariam est confiée à son oncle paternel. Quelques années plus tard, cet oncle part pour l'Égypte et se fixe dans les environs d'Alexandrie. À l'âge de 13 ans, Mariam refuse un mariage arrangé à son insu, selon la coutume orientale, pour se donner totalement au Christ. La fureur de son oncle éclate en mauvais traitements et vexations de toutes sortes. Au bout de 3 mois de cette situation, Mariam songe à son frère qu'elle voudrait revoir et lui écrit. Elle porte la lettre à un musulman, ancien domestique de la famille de son oncle, en partance pour Nazareth. Invitée à table, elle expose sa situation malheureuse. Le domestique lui suggère alors de passer à l'islam. De nouveau, Mariam refuse énergiquement en confessant sa foi chrétienne. Il la jette alors à terre et avec son cimeter lui tranche la gorge. Elle en gardera toute sa vie une cicatrice impressionnante. Puis, la croyant morte, il enveloppe d'un grand voile et l'abandonne dans une rue déserte. C'était le soir du 8 septembre 1859. Mariam se réveille dans une grotte avec à ses côtés une religieuse en bleu, qu'elle saura plus tard être la Vierge Marie. Celle-ci a recousu la blessure, la soigne et l'enseigne avec une science et un amour hors du commun. Puis, lorsque Mariam est suffisamment rétablie, elle la quitte dans une église d'Alexandrie pendant que Mariam s'y confesse. À 13 ans, commence alors pour la jeune Mariam une vie d'errance, de ville en ville, puis de pays en pays. Elle cherche, sans y parvenir, à rejoindre son frère et travaille comme domestique, d'abord à Alexandrie, Jérusalem, puis à Beyrouth et enfin à Marseille. Chaque fois que l'estime des familles chez qui elle travaille devient trop grande, à Beyrouth, deux miracles lui sont attribués, elle part plus loin. En service à Marseille depuis 2 ans, elle a le bonheur d'être admise en mai 1865 chez les sœurs de Saint-Joseph de l'Apparition. Toute la vie de Mariam a été remplie d'extraordinaires dons mystiques, parfois surprenants. Visions, extases, elle converse couramment avec les siens du ciel. Prophéties, guérisons, lévitations, stigmates, possessions diaboliques ou angéliques, etc. Son humilité profonde, elle s'appelait couramment le petit, et son abandon total entre les mains du Seigneur lui ont permis de tout vivre avec un parfait équilibre humain et spirituel. Son amour unique est plein de fraîcheur. Elle est aussi, pour nous, le témoin de cet univers invisible que notre foi professe et dont nous vivrons éternellement par-delà la mort. Mais toujours, elle ramènera à la foi et à l'Évangile comme seul fondement solide. Peu après son entrée chez les sœurs de Saint-Joseph, l'apparition des stigmates gêne ses supérieurs qui préfèrent l'orienter vers une forme de vie plus contemplative et plus cachée. En juin 1867, elle rentre au Carmel de Pau comme sœur converse, c'est-à-dire plus particulièrement chargée des tâches matérielles. Elle y prend le nom de Sœur Marie de Jésus crucifié. Elle a 21 ans, mais on ne lui en donne pas plus de 12. Sa petite taille, sa figure candide, sa difficulté à s'exprimer en notre langue, sa profonde ignorance de toutes choses, car elle ne savait même pas lire, ni en arabe ni en français, tout cela réuni en faisait un vrai type de l'enfance. Aussi pouvions-nous guère la désigner entre nous que sous le nom de la petite sœur, disait une de ses sœurs. Au bout de 3 ans, elle part avec 5 autres religieuses fonder un Carmel à Mangalore en Inde. Elle y fait profession religieuse après un noviciat qui a été plus long qu'à l'ordinaire à cause de ses stigmates. Mais une persécution éclate contre elle, toujours à cause de ses dons extraordinaires, mal interprétée par certains de ses supérieurs. Elle a beaucoup à en souffrir. On lui dit que sa profession est invalide, qu'elle est menée par le démon. Elle doit finalement rentrer en France. Ce deuxième séjour de 3 ans au Carmel de Pau est marqué par de multiples grâces de joie. Sœur Mariam retrouve le monastère qu'elle appelle sa maison paternelle. Son renom de sainteté commençait alors à rayonner sur tout le diocèse. Des prêtres, des évêques, des savants ou des voisins, des paysans venaient la consulter. Pour tous, elle avait une parole, un conseil très simple à donner. En août 1875, elle part à nouveau pour la fondation du Carmel de Bethléem. Connaissant l'arabe, elle sera l'apôtre du chantier de Bethléem après avoir été l'inspiratrice des plans. Elle y meurt des suites d'un accident en allant porter à boire aux ouvriers qui y travaillent. Je vous propose maintenant, à mes auditeurs, un petit peu de connaître l'enseignement de Sœur Mariam. Oui, il s'agit bien de quelqu'un qui vient nous attaquer, Ici, c'est Satan qui parle. Une créature personnelle, purement spirituelle, et non pas une sorte d'énergie négative qui flotte dans les airs, sans personnalité, comme le suggèrent certaines spiritualités véreuses et vénéneuses de notre temps. Il est capital de comprendre que ce quelqu'un, en fait, c'est lui qui a peur. C'est Satan qui a peur de nous lorsque, pour le vaincre, nous prenons les armes de Jésus, c'est-à-dire l'humilité, l'obéissance, l'amour. Et c'est lui, Satan, qui tremble de peur devant une âme qui s'est livrée à l'amour. Une personne qui vit avec Jésus, en vérité, n'a aucune peur à avoir du malin. Voici l'exemple et l'enseignement que Mariam nous livre par sa vie. Nous voyons donc que, pour remporter la victoire dans ce combat spirituel, Mariam a utilisé surtout trois armes. En premier lieu, celle de l'humilité. À propos de l'humilité, elle a précisé quelques points essentiels. Je voudrais en citer certains pour que nos vies en soient illuminées. Elle disait « L'orgueil, tout le met hors de lui-même, tout l'ennuie, le fâche, l'abaisse. L'orgueil, tout le révolte, tout le désole. Il a l'angoisse dans ce monde et dans l'autre. L'humilité a la joie dans ce monde et dans l'autre. » Souvenons-nous de cette parole de la Vierge Marie lorsqu'elle venait soigner Mariam gisant dans la grotte, la gorge tranchée. Quand la Vierge la nourrissait d'une soupe mystérieuse et délicieuse et l'enseignait sur la vie spirituelle, elle lui donna alors ce conseil en or. Soyez toujours contente. Dans le combat spirituel de Mariam, c'est précisément sur ce point que Satan l'attaqua. Il fit tout pour la pousser à se plaindre, à se révolter contre sa souffrance, contre son sort et même contre la volonté de Dieu sur elle. En un mot, il voulait lui communiquer son propre sentiment de frustration. Or, la Vierge avait enseigné à Mariam l'attitude inverse « soyez toujours contente », c'est-à-dire « accueillez tout comme venant de la main de Dieu, acceptez tout ». C'est cela l'humilité. L'humilité, dit Mariam, ne fait état de rien, elle est heureuse de tout. Pour former sa petite épouse, le Seigneur lui parlait en parabole. Vois le ver de terre, à mesure qu'il s'enfonce, il est garanti, mais s'il se montre, on l'écrase. Et Mariam nous dit, l'humilité c'est le royaume du cœur de Dieu, l'humilité se satisfait de tout, l'humilité porte partout le Seigneur dans son cœur. L'humilité sincère du cœur, c'est Dieu qui la donne, mais il faut faire des actes. Quand il y a la vraie humilité, on ne se met pas en peine de l'estime, du jugement, du regard de la créature. Puis un jour, Jésus lui montre l'enfer et lui dit « Il y a en enfer toute espèce de vertu, mais il n'y a pas l'humilité. Et au ciel, il y a toute espèce de défaut, mais pas l'orgueil. » Mariam décrit aussi l'humilité dans un raccourci brillant. « Bienheureux les petits, partout, il y a de la place pour eux. Mais les grands, partout, ils embarrassent. » Elle déclara que rien ne plaît plus au Seigneur que l'humilité. Le Seigneur lui a dit « Donne-moi un prêtre, un religieux qui a l'humilité, je ne lui refuserai rien. » Voilà un mot très fort à retenir. « Je ne lui refuserai rien. » À propos du péché du monde, écoutons ce dialogue entre Jésus et Mariam. Le Seigneur dit « Donne-moi un prêtre, cherche-en un seul qui ne recherche que moi et qui ne se recherche pas lui-même en rien, qui se met peu en peine de faire de beaux discours, de l'effet que peuvent faire ces discours. « Mais Seigneur, répond Mariam, il y a des prêtres, il y a de saints prêtres encore sur la terre. » Et Jésus dit, « S'il s'en trouvait un seul tout à fait dégagé de lui-même, qui ne rechercherait que la gloire de Dieu, ce prêtre ferait des prodiges, des miracles se feraient entre ses mains. » Voilà la promesse que Jésus donne à Mariam, et bien sûr à chacun de nous, « Ô puissance de l'humilité !» La deuxième arme que Mariam propose et qu'elle pratique elle-même dans ce combat contre les ténèbres, c'est l'obéissance. Elle a pratiqué l'obéissance jusqu'à l'héroïsme. Comment ne pas penser ici à Jésus et à son agonie à Gethsémani? Il était assailli par l'angoisse, la détresse, la tristesse mortelle et par de terribles souffrances intérieures. L'enfer entier s'était ligué contre lui, extérieurement et intérieurement. Or, c'est à ce moment-là précisément qu'il a prononcé la parole d'obéissance par excellence, « Père, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne ». Au cœur de ses combats à la suite du Christ, Mariam va se servir de cette arme efficace qu'est l'obéissance pour remporter victoire sur victoire. Nous savons qu'au Carmel, l'obéissance constitue un point essentiel de la règle. C'est même l'un des trois vœux que tout religieux prononce. Mariam nous parle donc avec force de l'obéissance, comme d'un chemin de lumière pour la vie consacrée. Elle affirme. Il faut toujours obéir, soumettre sa volonté à celle des supérieurs. Il ne faut pas faire de réflexion. Dieu n'aime pas une âme qui n'obéit pas, qui ne se soumet pas à son jugement. Il ne faut pas marchander avec Jésus. Si vous faites pour lui, faites en entier. Il n'aime pas les demi. Une âme qui ne donne pas tout comme une âme tiède, Jésus la vomit de sa bouche. Dans un moment d'extase, elle dit à une sœur qui était un peu timorée « Pratique seulement l'obéissance à l'autorité. » L'obéissance et la soumission sont deux cierges pour éclairer l'âme dans les ténèbres. C'est dans le moment noir, dans le moment terrible, qu'il faut se laisser conduire par l'obéissance. Mariam a reçu du ciel un autre conseil. Elle dit « La Sainte Vierge m'a fait connaître que l'obéissance nous préserve toujours de tous les malheurs et de tous les pièges de Satan. » Parmi les aveux de Satan, celui-ci mérite d'être mentionné. C'est Satan qui parle. « Il y a 6 ans que nous attaquons une carmélite en Espagne, disait donc le démon. Les 2 premières années, nous avons tout fait pour lui inspirer de l'antipathie pour une de ses compagnes. Nous la poussions à ne pas lui parler, à ne même pas la regarder. Elle a fait tout le contraire. Le maître a permis qu'elles fussent toutes les deux placées par l'autorité dans le même emploi. C'est alors surtout que nous avons essayé de la faire s'impatienter. Mais elle n'a montré que le plus grand support, la charité, la plus parfaite. Nous l'avons tentée contre la pureté, contre la mortification, contre l'humilité, et toujours sans succès. Nous lui avons insinué de voir plus souvent la supérieure, surtout le confesseur. Elle y est allée plus rarement. Nous avons exalté sa vertu solide, qui pouvait se passer de direction fréquente. Elle a recouru plus souvent à la prieure et au prêtre. Quand nous lui soufflons de demander des pénitences extraordinaires, elle se contente de celles de la règle. Essayons-nous de la convaincre de sa sainteté ? Elle confesse son orgueil en présence de toutes ses sœurs. Cette misérable nous écrase toujours. Satan rendait Mariam tantôt sourde, tantôt muette, mais l'autorité n'avait qu'à lui dire « Par obéissance, parlez, par obéissance, entendez, et la novice parlait et entendait. » Nombreuses sont les grâces mystiques que manifestait Mariam. Il faudrait un gros livre pour les rapporter toutes, mais l'une d'elles touche particulièrement à l'obéissance, et Mariam nous offre ici un témoignage magistral sur la sainte obéissance. Lorsqu'elle était au Carmel de Pau, les sœurs remarquèrent un soir son absence au souper. On se mit à la chercher et une novice l'entendit chanter dans le jardin. « Amour, amour !» Levant la tête, elle aperçut Mariam perchée au sommet d'un tilleul. Elle se balançait sur une branche minuscule qui n'aurait pas même pu soutenir un oiseau. Avertie par la novice, la prieure constata le fait et devient perplexe. Que faire dans un pareil cas ? Elle finit par crier à Mariam. « Ma sœur Marie de Jésus crucifié, si Jésus le veut, descendez par obéissance, sans tomber ni vous faire mal. » Au seul mot d'obéissance, toujours en extase, Mariam descendit du tilleul, le visage radieux, en s'arrêtant doucement à quelques branches pour chanter l'amour. À peine à terre, rapporte une de ses sœurs, et comme pour dédommager notre mère et nos sœurs des angoisses que nous avions eues, elle nous a embrassés avec une sorte d'ivresse et d'affection impossible à exprimer. Plusieurs fois, on la vit s'élever au sommet des arbres par l'extrémité des branches. Elle mettait son scapulaire dans une main et saisissant de l'autre main l'extrémité d'une petite branche par les feuilles, elle glissait en un clin d'œil jusqu'au sommet de l'arbre par l'extérieur. Arrivée au sommet, elle se balançait sur une petite branche et chantait l'amour de Dieu, le visage resplendissant. Puis elle redescendait comme un oiseau de branche en branche avec légèreté et modestie. Revenue à elle-même, elle ne se souvenait plus de rien. Durant ses lévitations sur les hautes branches des arbres, que faisait Mariam ? Selon ses dires, elle s'entretenait avec l'agneau de Dieu, car c'est lui qui l'appelait au sommet de l'arbre. Ses entretiens avec son époux céleste remplissaient Mariam de bonheur et de lumière, nous pouvons aisément l'imaginer. Toutefois, en un clin d'œil, elle était prête à les interrompre dès que l'obéissance le demandait. Interrompre une conversation amoureuse avec Dieu pour obéir à une prière qui n'a peut-être pas une raison de force majeure pour exiger cela, nous voyons là chez Mariam le signe d'une véritable vie d'union à Dieu et d'une vie mystique authentique. La grande majorité des saints ont obéi à des personnes qui n'avaient pas le quart de leur élévation spirituelle. Car derrière la personne qui exerce l'autorité, l'obéissant voit la main du Père qui dirige les événements selon sa sagesse divine. Obéir à l'autorité, c'est obéir à Dieu. Si, par contre, on discute, se faisant fort d'une sagesse ou d'une logique humaine, on ne fait que retarder l'accomplissement des desseins du Père. Un jour, Jésus dit à Mariam, « Ma fille, l'obéissance est pour l'âme ce que les ailes sont à l'oiseau. » La troisième arme dans ce combat spirituel pour appartenir à la lumière, c'est la charité. Mariam a montré toute sa vie une charité profonde envers ceux qui l'entouraient et bien sûr un amour très grand envers le Seigneur. Et je vous pose la question, qu'est-ce qui l'a proprement sauvée du naufrage durant les combats qu'elle a eu à assumer ? Ce qui l'a tenue, c'est l'amour immense des âmes que Jésus lui communiquait. Le Sauveur qui est allé jusqu'à mourir pour chacun de nous voit clairement nos âmes et l'état de péché dans lequel elles se trouvent. Mariam avait reçu ce don de voir l'offense faite à Dieu dans les âmes et de la ressentir douloureusement. Elle brûlait du désir de sauver ses âmes en union avec son époux, Jésus le Sauveur. J'ai remarqué que, pour beaucoup de saints, il y a un jour comme un déclic qui s'opère en eux et ils passent à une charité supérieure. L'amour du Seigneur est tellement brûlant dans cette âme sainte qu'elle accueille les tourments, les souffrances et les peines, non plus comme des malheurs qu'il faut fuir, mais au contraire comme des moyens bienvenus et bénis que l'on met au service de la rédemption. À ce moment-là, quand le déclic s'opère, c'est Dieu qui en prend l'initiative. Le signe en est que, pour l'âme, les peines deviennent comme suaves, les souffrances deviennent comme une douce joie. Non pas les souffrances en elles-mêmes, ce serait alors du masochisme et donc une perversion. En effet, la souffrance en soi est toujours un mal. Mais ces personnes brûlent tellement de l'amour pour Jésus que tout ce qui participe à l'œuvre du Sauveur leur devient une joie, à cause précisément de leur union d'amour avec lui. Suivre Jésus en tout, au Tabor comme au Golgotha, voilà leur joie. Tel est le véritable amour, le pur amour. Et voilà, je crois, le sommet de la charité de Mariam. Elle a vécu dans son âme les souffrances de la passion du Christ. Elle a éprouvé dans son cœur ses blessures et elle a enduré ses tortures dans son corps. Et elle a vécu tout cela dans l'action de grâce. Elle aimait tellement Jésus. Toutes ses croix la faisaient communier à l'amour rédempteur du Christ. Alors, ne nous étonnons pas de voir qu'à partir de cette source d'amour, c'est le cœur même du Christ qui battait dans sa poitrine. Branchée sur cette source d'amour, elle se dépensait jusqu'à l'épuisement au service de ses sœurs, au service des âmes. Voici certaines de ses paroles sur la charité, paroles merveilleuses de simplicité et de profondeur. Ayez beaucoup de charité. Comme tu prépares le chemin pour ton frère, le Seigneur le prépare pour toi. Si tu vois des pierres devant ton prochain, ôte-les sans qu'il le voie. Si tu vois un trou, remplis-le sans qu'il le voie. Fais son chemin uni. Si tu as soif et qu'on te donne de l'eau, donne ce verre à ton frère qui a soif. Pourtant, tu as plus soif que lui, mais tu es sûr que le Seigneur te donnera à boire de sa main. Elle répétait aussi à ses sœurs sans arrêt, « Aimez vos sœurs plus que vous-même. » Et lorsqu'elle parlait sous l'inspiration de son ange ou de l'Esprit-Saint, voire de certains saints qui venaient la visiter, elle disait à sa supérieure, « Aimez les agneaux qui vous sont confiés. Aimez-les plus que vous-même. Mariam fut visitée surnaturellement par certains saints, par certains anges et par la Mère de Dieu elle-même qui l'a enseignée tout au long de sa vie. La Vierge Marie a formé son cœur et l'a nourrie de sa sagesse. Étant née en Galilée d'une famille très pauvre, Mariam a le langage du terroir et emploie toujours des tournures très fleuries. Elle est poète, même avec son français un peu chaotique. Lorsqu'elle transmet les enseignements qui lui viennent d'en haut, elle les présente comme de petites paraboles. Elle prend des images de la vie ordinaire. Cela nous rappelle la Bible et aussi le langage d'un autre Galiléen, Jésus de Nazareth. Voici quelques histoires qu'elle aimait redire à ses sœurs. « Pour aller à l'oraison, il faut avoir des armes. » Alors une sœur lui demanda « Mais quelles sont ces armes pour l'oraison ?» Et Myriam de répondre « Quand il y a des choses qui nous viennent, par exemple des distractions, des pensées extérieures à la prière, il faut se munir de la petite hache. » Alors la sœur lui dit « Mais qu'est-ce que c'est cette petite hache ? » ?»« C'est la hache de la bonne volonté. » La bonne volonté, c'est la petite hache qui permet de couper à la racine tout ce qui pousse et qui n'est pas de Dieu et qui vient nous embêter dans la prière. À propos du péché, Mariam racontait cette parabole magnifique à retenir, car c'est la guérison pour l'âme tourmentée. Dans le ciel, les plus beaux arbres, ce sont ceux qui ont le plus péché sur terre. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont servis de leur péché comme fumier qu'ils ont déposé au pied de l'arbre. Quel beau raccourci sur la miséricorde de Dieu ! Tout l'enseignement de Mariam déborde d'espérance. Le dernier des pécheurs, Mariam ne cherche pas à l'accuser ni à le menacer, mais au contraire, elle encourage sa confiance en la miséricorde divine. Le pécheur comprend alors que le Seigneur peut et veut changer son péché, oui, même son péché, en quelque chose de positif au service de la lumière. Le pécheur est invité à déposer son péché au pied de l'arbre, comme on dépose donc du fumier, et l'arbre portera ainsi de plus beaux fruits. Même de l'orgueil, Mariam en parle dans un langage d'espérance. « Ceux qui sont très orgueilleux par nature, dit-elle, c'est une grâce. Pourquoi ?» Elle s'explique ainsi. Ils vont s'obliger chaque jour à s'exercer contre l'orgueil. Ils vont poser des actes contre cette mauvaise tendance. Et à travers ce combat contre l'orgueil, le Seigneur les fait grandir précisément dans l'humilité. Ils auront à combattre toute leur vie contre l'orgueil, leur orgueil. Mais grâce à ce combat, ils vont être glorifiés dans l'humilité d'une manière toute particulière au ciel. Ce qui revient à dire que chacun des défauts tenaces de notre nature est comme le signe que le Seigneur veut nous élever très haut dans la vertu contraire. Magnifique ! Seul Jésus peut trouver le moyen d'utiliser un mal pour nous faire grandir dans le bien. Mariam a pris l'exemple de l'orgueil, mais on peut aussi dire la même chose de l'égoïsme, de l'impureté ou de l'avarice. Mariam transforme tout dans la lumière du Saint-Esprit pour encourager ses sœurs, pour donner l'espérance aux pécheurs, pour redonner la joie au cœur brisé, pour soutenir ceux qui peinent. Et pour les personnes qui sont affligées par la maladie, Mariam a des paroles qui restaurent la paix. Elle a observé chez ses sœurs des pensées qui font perdre la paix au sein de la maladie. Lorsque l'on dit « Ah, si j'étais en bonne santé, je ferais telle chose pour le Seigneur, je ferais telle œuvre pour Dieu, pour mon âme. » Mais Mariam montre que ces pensées ne sont que de pures illusions. Car au cœur même de la maladie, le Seigneur va nous faire vivre quelque chose d'important. Et si l'on demande la guérison, que ce soit vraiment pour la gloire de Dieu. Mon Dieu, si l'intérêt de votre gloire l'exige, si c'est votre volonté, si le bien de mon âme le demande, etc. Mariam était entièrement tendue vers Dieu et tout occupée de sa gloire. Rien en elle ne ressemblait à du repliement sur soi, bien au contraire. Le Seigneur a même permis qu'elle soit inconsciente des grâces qui passaient par elle. Elle se voyait elle-même comme la dernière des sœurs, la dernière des pécheresses, et elle considérait que c'était une grande charité de la part de ses sœurs que de l'accueillir au sein du monastère. Amis auditeurs, merci pour votre écoute. Je vous laisse en compagnie de Sœur Mariam et à bientôt pour une nouvelle émission.